La question que j'aimerais aborder avec vous, la question de Jésus que j'aimerais aborder avec vous ce matin, se trouve dans l'évangile de Jean. Elle se trouve dans un récit très connu, je pense, de la plupart d'entre nous. Un récit qui souligne avec force, même beaucoup de force, la grâce de Dieu, son amour manifesté pour le pécheur. Plus précisément dans notre passage, pour une pécheresse, puisqu'il s'agit du passage dit de la femme adultère. Je lis avec vous le texte dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Je vais lire les versets 1 à 11 et je lis ce matin dans la traduction de la Bible à la Colombe. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, la place au milieu, et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol, sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamnée ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » C'est au verset 10 que se trouve notre question qui en fait fonctionne de pair avec une autre question. Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ?» Au moment où Jésus pose ces deux questions, ceux qui étaient venus avec cette femme sont déjà repartis. Il ne reste plus personne pour l'accuser. Ah si, il reste Jésus. Va-t-il, lui aussi, condamner cette femme, cette pécheresse ? Sa réponse se trouve au verset 11, nous l'avons lu. Mais avant d'y venir, il faut bien considérer ce qui précède. Avant de dire un mot sur les accusateurs de cette femme, ce sera notre deuxième point, j'aimerais rapidement mentionner le problème textuel qui existe autour de ce passage. En effet, ce récit de la femme adultère est absent de plusieurs manuscrits parmi les plus anciens. Et puis on peut noter parmi les autres manuscrits que certains situent ce passage à la fin de l'évangile de Jean, donc pas du tout au chapitre 8, et que d'autres le situent à la fin de l'évangile de Luc. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire certainement que, très probablement, ce récit n'est pas à sa place dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit qu'il n'était pas à sa place, on n'a pas dit le plus important, c'est-à-dire qu'il est quand même authentique. Et c'est ça le plus important, c'est qu'il a été écrit par un des évangélistes, sans doute Jean, peut-être Luc. En tout cas, à ce sujet, la très grande majorité des commentateurs, à moins qu'ils soient vraiment très libéraux et qu'ils remettent en question tout ce qui est écrit dans la Bible, la quasi-totalité des commentateurs s'accordent pour dire que le Jésus qui est présenté dans ce récit, c'est le Jésus des évangiles, c'est le Jésus qui nous est familier, le Jésus plein de compassion et plein de sagesse que nous retrouvons donc dans les évangiles. Et qu'il n'y a donc aucune raison sérieuse de penser, de douter de la véracité de ce passage. On ferme cette parenthèse et on en vient maintenant à notre récit et on commence par le commencement en se posant la question « Que se passe-t-il dans notre récit ?» Jésus est en train d'enseigner dans le temple, c'est ce qui est marqué, quand des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire les autorités religieuses de l'époque, lui amènent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Alors la première chose qu'il faut remarquer dans ce texte, c'est que ces scribes et ces pharisiens n'amènent pas l'homme, ils n'amènent que la femme. Nous remarquons, nous constatons que l'homme est absent et que seule la femme est amenée et accusée. Pour autant que je sache, il faut être deux pour ce genre de choses. Pourquoi l'homme n'est-il pas là? Pourquoi? Et puis pourquoi ne l'ont-ils pas amené à Jésus? Quelques hypothèses parmi celles qui me semblent les plus sérieuses s'offrent à nous. Alors soit cet homme n'est pas là parce que ce qui intéresse les scribes et les pharisiens, ce n'est pas que justice soit rendue. Ça en a l'apparence, mais ce n'est pas ça. Ce qui les intéresse, nous allons y venir dans un instant, c'est de coincer Jésus. C'est de mettre Jésus en difficulté. C'est une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est de se souvenir que le statut des hommes et des femmes à cette époque dans la société juive n'était absolument pas le même. C'est une évidence que ça a quelque chose à voir avec l'absence de l'homme qui n'était pas traité comme la femme. Et puis l'autre hypothèse, c'est celle qui regroupe ces deux-là et qui dit que vraisemblablement il y a un peu de tout ça dans les raisons qui font que notre homme n'est que cet homme n'est pas là. Un mot maintenant sur les intentions donc des scribes et des pharisiens. Quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et quand nous lisons le texte, nous comprenons très très rapidement que derrière ce désir apparent de justice se cache en réalité la volonté de piéger Jésus, la volonté de le coincer. Leur désir de justice n'est qu'hypocrisie. Et tout cela, c'est clairement dit au verset 6. Ils disaient cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Alors, en quoi consiste cette mise à l'épreuve? Finalement, quels sont les enjeux à ce moment-là? Quelles accusations pourraient-ils donc porter contre Jésus? Si Jésus leur dit de laisser partir cette femme, ils vont l'accuser de ne pas respecter, de ne pas obéir à la loi de Moïse. Si Jésus leur dit de la lapider, comme le prescrit la loi, alors il sera accusé de sédition, de rébellion. auprès des autorités romaines qui avaient ôté aux Juifs le droit d'exécuter qui que ce soit. Et puis, il serait aussi accusé auprès du peuple de ne pas être ce Messie miséricordieux qu'il prétend être. Et dans les deux cas de figure, nous voyons bien que Jésus se retrouverait coincé. Le piège est donc tendu. Amener cette femme à Jésus n'est bel et bien qu'un prétexte pour le coincer et pour pouvoir l'accuser. Quelques précisions maintenant rapidement au sujet de la loi de Moïse, à laquelle se réfèrent donc les accusateurs de cette femme. Ce sera notre troisième point. Je relis les versets 3 à 5, et particulièrement le verset 5. Alors, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ?» Que dit la loi de Moïse au sujet de l'adultère ? Nous allons constater qu'effectivement, elle ordonnait la mise à mort des deux coupables, pas seulement de la femme, mais de la femme et de l'homme. Pas forcément par la lapidation, mais je ne vais pas entrer dans toutes ces considérations ce matin. Deux textes, le premier dans le Lévitique, « Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront mis à mort. » Ça, c'est le premier texte. Et puis, le second, dans le livre du Deutéronome, « Si on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme elle-même, tu élimineras ainsi d'Israël ce qui est mauvais. Si une jeune fille vierge est fiancée à quelqu'un, qu'un homme la trouve dans la ville et couche avec elle, vous les ferez sortir tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir abusé de la femme de son prochain, tu élimineras ainsi de ton sein ce qui est mauvais. » Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces textes, mais simplement dire ce qu'on peut dire à minima ici. Et à minima, nous devons bel et bien constater que la loi de Moïse punissait de mort l'adultère, l'homme et la femme qui le commettaient, la femme qu'elle soit mariée ou qu'elle soit fiancée. L'autre chose qu'il faut souligner ici, c'est que, je l'évoquais il y a quelques instants, c'est que depuis que les Romains occupaient la Palestine, les Juifs n'avaient plus cette carte-là dans leurs mains. La peine de mort ne leur appartenait plus. Quoi qu'en dise la loi de Moïse, il n'avait plus le droit d'exécuter quelqu'un. Si quelqu'un en avait le droit, c'était l'autorité romaine. Seul le gouverneur romain pouvait décréter cela. Et c'est la raison pour laquelle les autorités juives, à la fin des évangiles, vont amener Jésus devant Pilate pour que Pilate prononce la peine de mort et que celle-ci soit exécutée. La loi de Moïse condamnait donc à mort cette femme et l'homme qui est, on ne sait pas trop où, trop où. Les Romains interdisaient aux Juifs d'exécuter une telle sentence. Les scribes et les pharisiens demandent à Jésus ce qu'il en pense. Le piège est bien armé. Que va faire Jésus ? Que va-t-il dire ? Comment va-t-il s'en sortir ? Jésus, c'est notre quatrième point. La première chose que j'aimerais souligner concernant Jésus, c'est son refus de répondre directement à la question qui lui est posée, évitant ainsi de tomber dans le traquenard qui est mis devant lui. Que fait Jésus ? Nous lisons au verset 6 que Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Jésus garde le silence. Il manifeste clairement en se baissant et en écrivant quelque chose sur le sol qu'il ne désire pas répondre à cette question, à leur question. Il montre aussi qu'il n'est pas dupe de leur manigance. Il connaît leurs intentions. Qu'a-t-il écrit avec son doigt sur le sol ? Je n'ai malheureusement pas de scoop pour vous ce matin. Mais en réalité, peu importe. Peu importe. Parce que de toute façon, quelles que soient les hypothèses qu'on peut émettre, nous ne saurons pas. Nous ne saurons jamais, en tout cas dans cette vie. Et c'est donc une perte de temps, à mon sens, que de commencer à émettre toutes sortes d'hypothèses en se demandant ce que Jésus a bien pu écrire. Est-ce que c'était pour lui, pour la femme, pour les scribes, pour les pharisiens, bon, pour les disciples ? Beaucoup s'y aventurent. Je pense personnellement que c'est vraiment une perte de temps et que ça nous détourne finalement de ce que nous devons comprendre dans ce texte. À mon sens, devant le silence de Jésus, à mon sens, ce qu'il faut retenir ici, c'est le silence de Jésus. Alors, que font les scribes et les pharisiens pendant que Jésus ne leur répond pas, qu'il est baissé et qu'il écrit avec le doigt sur la terre ? Eh bien, nous lisons au verset 7 qu'ils insistent. Ils insistent. Ils ne s'avouent pas vaincus. Ce n'est pas parce que Jésus ne leur répond pas qu'ils vont lâcher l'affaire comme ça. Comme ils persistaient à le questionner. Lisons-nous au verset 7. Comme ils persistaient à le questionner, Jésus va se redresser et il va leur dire quelque chose. Va-t-il répondre à leurs questions ? Non, il ne répond pas à leurs questions, mais il les interpelle. Il les interpelle en leur disant que celui de vous qui est sans péché, le premier lui jette le premier la pierre. Et puis au verset 8, nous lisons que Jésus se baisse à nouveau et qu'il se remet à écrire sur la terre. Jésus ne leur répond pas, mais il les interpelle. Et par cette interpellation, que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre, par cette interpellation, Jésus fait plusieurs choses. Premièrement, il confond clairement la ruse de ses accusateurs. Il ne tombe pas dans leur piège, il ne répond pas à cette question, ce qui l'aurait mis en difficulté. Et puis, notons aussi qu'il laisse la loi intacte, il n'y touche pas, il ne s'y oppose pas. Il y a d'autres endroits où Jésus aura des choses à dire sur la loi, mais il ne le fait pas là, ce n'est pas le moment. Et puis, il refuse de juger la femme. Ce qu'il dit n'est pas un jugement prononcé sur la femme. Et pourtant, ce qu'il dit reconnaît quand même la culpabilité de cette femme, la culpabilité de son péché. Et puis Jésus, en les interpellant, va mettre sur un même plan le péché de cette femme avec les autres péchés, et en particulier le péché des scribes et des pharisiens, sur lequel il met le doigt en passant. Et puis enfin, soulignons que Jésus, par cette interpellation, donne libre cours à la miséricorde. C'est quand même cela qui ressort le plus. Et en agissant ainsi, il invite chacun, la femme bien évidemment, mais les scribes et les pharisiens aussi, à se repentir, puisqu'à l'évidence, ils ne sont pas sans péché. S'ils l'avaient été, ils ne seraient pas partis. Waouh, voilà ce qu'on appelle du retournement de situation. Ils étaient venus pour coincer Jésus, Et voilà qu'ils sont coincés. Ce sont eux qui sont coincés. Et c'est ainsi donc qu'en entendant les paroles de Jésus, les accusateurs de cette femme vont s'en aller l'un après l'autre jusqu'au dernier, jusqu'à ce que Jésus, dit le texte, reste seul avec la femme. Quand ils entendirent cela, verset 9, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu d'eux. Notons que s'il y a maintenant un face-à-face entre Jésus et la femme, la foule est encore là. Les disciples sont encore là. Notons aussi que la femme est restée. Elle aurait pu profiter de la débandade des scribes et des pharisiens pour s'éclipser discrètement, profiter de leur départ pour partir aussi. Et pourtant, elle ne l'a pas fait. Sans doute qu'elle ne l'a pas fait parce qu'elle se sait coupable. Sans doute n'a-t-elle pas osé le faire. Peut-être attend-elle quelque chose de Jésus. Et c'est effectivement à ce moment-là que, pour la première fois, Jésus s'adresse à elle. Et il s'adresse à elle pour, premièrement, l'inviter à constater que ceux qui l'accusaient ne sont plus là et que ceux qui la condamnaient ne sont plus là. Et c'est donc là que nous arrivons à notre question. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs ?»« Où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ?» Et elle répond, « Personne, Seigneur. » Et Jésus continue à la fin du verset 11, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Jésus dit deux choses ici, fait deux choses. Il ne condamne pas cette femme et il l'invite à ne plus pécher. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Est-ce que cette non-condamnation de Jésus serait un peu une forme d'approbation? Est-ce qu'il n'y a pas ici une minimalisation du péché de cette femme? Nous arrivons à notre cinquième et dernier point où j'aimerais brièvement tirer quelques prolongements de notre passage. Et j'aimerais d'abord dire quelque chose sur le péché et sur le jugement. Soyons clairs, Jésus n'approuve pas l'adultère, il ne minimise pas le péché de cette femme adultère ni de l'homme absent. En fait, Jésus ne minimise jamais le péché. C'est une première chose, il faut le redire. En réalité, il reconnaît toujours la réalité, cette réalité dans nos vies, et il invite régulièrement à s'en détourner. Et c'est ainsi qu'à la fin de notre passage, il dit à cette femme, « Va et désormais ne pêche plus. » Ce « ne pêche plus », c'est un appel indirect à la repentance. Parce que ne pas recommencer, c'est avoir compris que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais si Jésus met le doigt sur son péché, sur le péché de l'infâme, à l'inverse des scribes et des pharisiens qui voulaient condamner cette femme, à l'évidence, même si elle n'était qu'un prétexte pour piéger Jésus, Jésus, lui, ne la condamne pas. Ce qu'il condamne, c'est le péché, pas la personne, uniquement le péché, celui de la femme et celui des scribes et des pharisiens, tout aussi pécheurs qu'elle. En effet, en leur disant au verset 7 que celui qui est sans péché jette la première pierre ou le premier la pierre, Jésus souligne qu'ils sont eux-mêmes pécheurs, qu'ils sont eux-mêmes coupables. Et donc Jésus met le doigt sur leur péché, en mettant aussi le doigt sur le péché de la femme et sur leur culpabilité. Ils se croyaient meilleurs et Jésus leur ouvre les yeux. Ce que Jésus fait ici pour la femme adultère, la distinction entre la personne et son péché, peut-être que ça nous semble être une évidence. Et pourtant, combien facilement nous confondons la personne et ses agissements. Qu'il est facile de jeter le bébé avec l'eau du bain. Combien facilement nous rejetons la personne à cause de son péché, avec son péché. Et combien facilement nous voyons facilement le péché des autres et nous oublions le nôtre. Qu'il est facile pour reprendre une autre parole de Jésus, de voir la paille dans l'œil de notre frère, de notre sœur, de notre prochain et d'oublier qu'il y a une poutre dans le nôtre. Non, assurément, nous ne pouvons jamais jeter la première pierre. Jamais, ni même les suivantes d'ailleurs, et à qui que ce soit, car nous aussi, nous sommes pécheurs et coupables devant Dieu. Le Seigneur nous aide donc à toujours bien faire cette part des choses entre le pécheur et le péché. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que c'est facile. Ça ne l'est pas dans certaines situations. C'est peut-être pas facile, mais c'est quand même le chemin que le Seigneur ouvre pour nous dans ce passage. Et ce chemin, c'est un chemin de grâce. C'est un chemin de grâce, et la grâce, ça sera le deuxième et le dernier prolongement que je voudrais faire à partir de ce passage. Jean, au début de son évangile, nous dit que la grâce, la vérité aussi, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. À l'horloge de Dieu, il y a un temps pour le jugement, il y a un temps qui est marqué, qui est déterminé pour le jugement du péché. À l'horloge de Dieu, c'est quelque chose qui est déjà marqué. Mais pour l'heure, c'est encore le temps de la grâce. La grâce que Jésus est venu apporter par son sacrifice en offrant le salut à quiconque croit. Le salut non pas par nos mérites, ils sont toujours insuffisants, mais par les mérites de Christ, par son obéissance parfaite. Oui, Jésus est venu apporter la grâce. Alors, la grâce du salut, bien évidemment, mais aussi la grâce dans nos relations. Et il nous offre ici un exemple saisissant de ce que doit être la grâce dans nos relations. La grâce qui pourtant ne minimise jamais le péché, c'est pas ça la grâce, hein, minimiser le péché. La grâce, c'est pas la faiblesse de faire comme si on n'avait pas vu ou comme si ça n'existait pas, c'est pas ça la grâce. La grâce dénonce le péché, mais elle accueille le pécheur. La grâce relève le coupable. La grâce invite à la repentance et au changement. La grâce surabonde là où le péché abonde. La grâce que Dieu nous offre par Jésus et qu'il désire que nous offrions à notre tour à toutes celles et ceux que nous côtoyons. Et à ce sujet, Jésus dira dans l'évangile de Luc, alors c'est un peu long, mais c'est bien de mettre le verset 36 avec tout ce qui précède, parce que c'est ce qui donne aussi la force au verset 36. Voilà ce que dit Jésus. « Mais je vous dis à vous, » alors il le dit à ses disciples, « mais je vous dis à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, Faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il y aurait bien évidemment beaucoup, beaucoup de choses à dire ici si on voulait prendre le texte dans son ensemble. Ce qui m'intéressait, c'était le verset 36. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Tel Père, tel Fils. » C'est ça la logique de ce passage. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons chercher à ressembler à notre Père, à notre Père céleste. Alors oui, la barre est haute, mais c'est notre vocation, si nous sommes enfants de Dieu, que de chercher à ressembler à notre Père céleste. Nous sommes appelés à agir à l'image de notre Père céleste, à l'image de Jésus qui en est le reflet. Être miséricordieux comme Dieu ou car Dieu est miséricordieux. Être bon comme Dieu, car Dieu est bon. Être rempli de grâce, tout particulièrement envers nos frères et sœurs dans la foi, comme Dieu est rempli de grâce envers ses enfants. Je vais laisser le mot de la fin à l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 12 à 15. Ainsi donc, dit-il, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Oui, il faut tout ça. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Amen.